des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Chacun sait qu'Albert Camus était né en Algérie, mais quelle relation entretenait-il avec l'Italie? C'est ce dont nous allons parler dans cette émission en compagnie de Giovanni Dottoli, professeur de langue et de littérature française à l'Université de Bari, qui a consacré un livre au voyageur écrivain français en Italie intitulé « Le jardin d'Italie » paru aux éditions Honoré Champion en 2008. Les voyageurs français qui furent fascinés par l'Italie sont nombreux et célèbres. On ne peut les citer tous, mais néanmoins nous avons fait une série d'émissions sur la majorité d'entre eux. Bonjour Giovanni Dottoli.
Bonjour Madame Renard et bonjour aux auditeurs de Canal Académie.
Alors avant que vous nous présentiez Albert Camus et sa relation avec l'Italie, je voudrais seulement rappeler en quelques mots quelques passages essentiels de sa vie. On ne peut pas tout dire. Il était né en 1913 dans la région de Constantine et il est mort accidentellement d'un accident de voiture le 4 janvier 1960. Il a commencé à écrire jeune, dès son adolescence. Son récit « L'envers et l'endroit » est paru en 1937, suivi par « Les noces » en 1939. Et on sait qu'il fut tout à la fois écrivain, romancier et homme de théâtre et journaliste engagé. Le journalisme fut pour lui un mode de combat, sans jeu de mots d'ailleurs, puisque combat c'est aussi le titre du journal où il publia ses articles les plus fameux et dont il fut le rédacteur en chef durant 3 ans, de 1944 à 1947. Alors l'œuvre de Camus est internationalement connue, L'étranger, Le mythe de Sisyphe, Caligula, La peste, on n'en cite que quelques titres, sans oublier son œuvre théâtrale. Et toute cette œuvre, il faut le rappeler, a été couronnée par le prix Nobel de littérature en 1957. Alors cette émission n'a pas pour objet de relater toute l'œuvre ni toute la vie de Camus, mais simplement d'évoquer sa relation avec l'Italie. Quelle fut-elle? Quand va-t-il en Italie pour la première fois?
Disons que, alors premièrement, merci, parce que le sujet Camus et l'Italie n'est pas très connu. On connaît seulement le fait qu'il est très étudié en Italie, qu'il y a d'importants professeurs, chercheurs à propos de l'œuvre de Camus. Mais à part cela, la relation de Camus avec l'Italie n'est pas très connue. Et surtout, il y a un autre élément qui pour moi est fondamental. La pensée méditerranéenne et donc italienne de Camus n'est pas très connue. Au contraire, je pense que là, il y a une matière fondamentale pour de nouvelles recherches. Je crois qu'il y a quelques années, on a publié un petit livre intitulé « La pensée de midi » de Camus. Moi, je parlerais plutôt de « pensée méridienne ». Pourquoi « pensée méridienne » ? Vous venez de le rappeler, Camus est né en Algérie, il est algérien, donc il est très méditerranéen. Cela, ce point de départ, est fondamental pour comprendre toute son œuvre. Derrière toute son œuvre, il y a une pensée méditerranéenne, une philosophie méditerranéenne, un sens de lecture de la modernité sur la base de l'histoire de la Méditerranée à partir du monde grec jusqu'à son époque. En lisant ces quelques passages sur l'Italie qui se trouvent dans ses carnets, il a été en Italie dans les années 50. Apparemment, son dernier voyage en Italie date du mois de juillet 1958. Mais tout le temps, nous allons lire des passages bien sûr, mais tout le temps, j'ai été frappé par le fait qu'il est capable de signaler de lire la dichotomie entre le Nord et le Sud. C'est l'un des quelques rares intellectuels français, mais à cause du fait qu'il est héros méditerranéen, qui se rend compte que dans l'imaginaire de tout le monde, le Nord, c'est la discipline, le manque de lumière, le contrôle des passions, la pudeur, l'éthique un peu protestante, la méthode, l'ouverture à l'océan, la richesse, bien sûr, le travail et la vitesse. Au contraire, le Sud, et donc l'Algérie, et donc l'Italie, qui dans son imaginaire est bien sûr un pays qui n'a rien d'européen, il n'a pas visité Milan, c'est le Sud qui l'intéresse jusqu'à Florence, eh bien il écrit un peu partout, il laisse comprendre que le Sud est le soleil, la lumière, la pose, la lenteur, l'ivresse, la sensualité encore une fois, la douceur, la malédiction aussi, l'extase, et on sait que la malédiction fait partie de son œuvre, le plein air, la magie, le sacral, le démon, le rite du corps, le voyage du cœur, le rêve, l'ouverture maritime, c'est fondamental, et la promenade. Donc, disons que Camus a le grand mérite de comprendre l'axe double réel de ce que j'ai appelé les jardins d'Italie, c'est-à-dire d'un côté l'âme, de l'autre le corps, d'un côté la règle, de l'autre la fantaisie, d'un côté l'ordre, de l'autre l'aventure, d'un côté l'esprit, de l'autre la chair. Donc, mais pas pour arriver à une division, au contraire, pour arriver à une union, une unification. C'est comme il nous disait que notre vie est un symbole merveilleux d'union âme et corps, règle et fantaisie, ordre et aventure. Alors tout cela se retrouve d'une façon étonnante même dans l'œuvre de Léopold Sédar Senghor, qui, comme on le sait, était africain, mais qui parle de pensée méditerranéenne lui aussi, tout en n'est pas né au bord de la Méditerranée comme Camus. Donc Camus a le mérite, en lisant l'Italie, surtout l'Italie du Sud, de comprendre le sens de la modernité, et c'est comme s'il comprenait un des proverbes italiens tout à fait mal compris, qui est le suivant: qui va piano va sano e va lontano. Je traduis: qui marche lentement marche en pleine santé et arrive loin. Et toute son œuvre dit un peu tout cela, c'est-à-dire que c'est la lenteur de la Méditerranée, c'est la lenteur du soleil, c'est la lenteur de l'Afrique du Nord, c'est la lenteur de son pays d'origine. C'est pour cela que je parle de pensée méridienne, pensée du midi, l'après-midi, entre le soleil et l'ombre. Donc cette façon de savoir regarder le monde comme un jardin, de savoir regarder une plage, un rocher, une colline, une barque, un oiseau, des fleurs, des nuages. Et à ce titre, je pense que Camus mérite vraiment un intérêt immense de notre part. Et je dirais même qu'il est d'une actualité débordante parce que nous connaissons maintenant les grands problèmes à la suite de la mondialisation, les grands problèmes du commerce, de cette perte d'identité, de cette vitesse excessive. Nous connaissons le problème de l'affrontement qui se passe tous les jours entre les idées orientales et les idées occidentales. Camus voulait éliminer cette séparation et réunir justement le Sud et le Nord. Probablement, c'est une des raisons pour lesquelles il est venu vivre en France. Alors, quelques passages pour illustrer, nous confirmer ce qu'il dit. En 1954, au mois de décembre, il est à Florence. Et là, il comprend la différence des villes. Il écrit: il y a des villes comme Florence, les petites villes toscanes ou espagnoles, qui portent le voyageur, le soutiennent à chaque pas et rendent sa démarche plus légère. D'autres qui pèsent tout de suite sur ses épaules et l'écrasent, comme New York. New York, bien sûr, c'était le Nord, c'était l'Amérique, c'était ce que je viens de dire. Et il faut y apprendre peu à peu à se redresser et à voir. Rome pèse ainsi, mais d'un poids sensible et léger. On la porte sur le cœur comme un corps de fontaine, de jardin et de coupole. On respire sous elle, un peu oppressé, mais étrangement heureux. Cette ville, relativement petite, mais dont les perspectives aériennes éclatent parfois au détour d'une rue, cet espace sensible et borné respire ensemble avec le voyageur et vit avec lui. Donc voilà, nous avons déjà immédiatement la sensation de cette séparation de l'Occident. New York, symbole de la richesse et du travail, du sens du travail et du commerce, des banques, des banquiers, de l'Occident. Et de l'autre côté, ces villes grandes et petites italiennes, dont là un symbole est Rome, qui réunissent à éliminer ce contraste dramatique et à redonner un sens de joie de la vie. Voilà une autre preuve. Il parle toujours de Rome et en parlant de Rome, il veut nous montrer la joie de la lumière de la Méditerranée. Quitter l'hôtel pour cette pension sur la Villa Borghese, j'ai une terrasse qui avance sur les jardins et la vue qu'on en découvre à chaque fois m'étreint le cœur. Après tant d'années d'une ville sans lumière, c'est Paris bien sûr, de lever dans le brouillard, parmi les murs, je me nourris sans cesse de cette ligne d'arbres et de ciel qui va de la Porta Pinciana à la Trinità dei Monti et derrière laquelle Rome roule ses coupoles et son désordre. Chaque matin quand je sors sur cette terrasse, encore un peu ivre de sommeil, le chant des oiseaux me surprend. C'est comme s'il retrouvait le chant des oiseaux de sa naissance. Viens me chercher au fond du sommeil et viens toucher une place précise pour y libérer d'un coup une sorte de joie mystérieuse. Je regrette ici les stupides et noires années que j'ai vécues à Paris. Il y a une raison du cœur dont je ne veux plus, car elle ne sert à personne et m'a mise à deux doigts de ma propre perte. N'oublions pas que là, il est à six ans de sa mort. Mais sa mort est arrivée à l'improviste, mais quand même...
Il ne voulait plus perdre son temps dans les villes noires.
Voilà, cette sensation du Nord noir, du Nord sans lumière, du Nord qui pèse sur le cœur, et de la joie des paysages, du ciel, du Sud, et Rome notamment, là, je pense que là, tout ça reste fondamental.
C'est dans ces carnets là que vous nous citez les extraits, c'est dans ces carnets, oui.
Autre exemple, Naples. Et là, il est un peu cocteau. Même chose. Tout ce linge claquant. Tout le monde sait, il y a les cartes postales de Naples, on voit partout le linge aux fenêtres et aux balcons de Naples. Tout ce linge claquant qui donne à Naples un air de fête perpétuelle vient après tout de ce que le linge manque et qu'il faut le laver au jour le jour. Ce sont les étendards de la misère. Bien sûr, c'est la misère, mais en même temps, il aime cette misère parce qu'il dit, et cela donne à cette misère un air de fête extraordinaire. Donc une fête qui est en même temps fête profane et fête religieuse. De fait, dans le passage que je viens de citer, immédiatement il parle de la Vierge. Donc il passe du linge à la Vierge. Et surtout des pétards. Les pétards célèbrent le feu d'artifice des fêtes du sud de l'Italie. Au derrière de tous les saints, la Vierge s'annonce par des pétarades. À une fenêtre, un démon, l'œil fixe, allume l'un à l'autre de même geste mécanique, des dizaines de pétards qu'il lance dans la foule et autour desquels les enfants dansent une ronde dessus jusqu'à ce qu'ils éclatent. L'hôtellerie des pauvres, on a vu grand, c'est l'Escurial de la misère. La même chose, il voit Pestum. Alors Pestum, c'est un célèbre temple grec au sud de Naples qui a été découvert pendant la seconde moitié, ou redécouvert, disons, du XVIIIe siècle, à partir du moment où le Grand Tour pénètre le sud de l'Italie. Et là, à Pestum, Camus, disons, retrouve la confirmation de ce qu'il savait, ce sens de l'histoire, des ruines de l'histoire, et qui en même temps sont une confirmation de lumière, de sens de la lenteur, d'amour pour les ruines, mais comme confirmation de la vie. Par exemple, « Soir, silence, corbeau, comme oiseau de lourd marin, et la chatte, mes larmes, musique. Au matin, à Tipaza, la rosée sur les ruines, la plus jeune fraîcheur du monde sur ce qu'il y a de plus ancien. C'est là, ma foi, et selon moi, le principe de l'art et de la vie. » Donc, en regardant des ruines, donc en regardant la mort, des choses mortes, une ville qui n'existe plus, dont il ne voyait que quelques colonnes, quelques ruines, quelques fouilles, quelques herbes, quelques maquis méditerranéens. Et au contraire, c'est là qu'il y a le principe de l'art, donc pour s'inspirer, et surtout le principe de la vie. Donc les temples sont en même temps des valeurs de mélancolie, parce qu'on a la sensation que l'on vieillit, que le temps passe, que le temps suit son cours. Et c'est là tous les poètes français l'ont dit. Mais en même temps, il y a cette réflexion sur le temps qui est une sorte de rose, de liège doré, qui a une présence inépuisable pour redonner à l'être humain ce désir de partir, ce désir d'aller à partir du jardin d'Italie.
Merci Giovanni Dottoli. Je rappelle pour terminer cette émission que toute l'œuvre de Albert Camus est éditée chez Gallimard et notamment dans la collection La Pléiade, qu'il existe aussi des cahiers Albert Camus et que de nombreuses biographies, thèses de doctorat et études lui ont été consacrées et que vous pouvez retrouver sur Canal Académie en tapant le mot-clé Italie, toute la série d'émissions que nous avons à vous proposer sur ce thème avec Giovanni Dottoli, émissions réalisées à partir du livre Jardin d'Italie à la recherche d'un art de vivre, publié aux éditions Champion, et nous avons consacré des émissions à Cocteau, à Paul Morand, à Stendhal, à Chateaubriand, à Lamartine, à Julien Green, à Émile Zola. Merci pour cette belle série, Giovanni Dottoli.
Merci Madame Renard, merci à Canal Académie. J'ai été vraiment très content de pouvoir exprimer simultanément mon amour pour mon pays et surtout mon amour pour la France, qui est mon deuxième pays, et cet amour, disons, s'est conjugué dans l'amour des voyageurs français vers le jardin d'Italie.